Bonjour à tous. C'est toujours très impressionnant de se retrouver devant l'Assemblée. Et en arrivant, j'étais tout craintif et j'ai vraiment été encouragé par les prières, par les chants, par les textes que Jean nous a lus. Et je suis vraiment dans la joie de pouvoir partager la parole avec vous. Et avant de prendre le texte en question, et vous verrez, il y a plein de parallèles entre ce que je vais partager et ce qui a été déjà dit ce matin déjà. Donc avant, je voulais vous montrer une image. C'est une image qui est tirée des BD de Alain Auderset, qui est un dessinateur chrétien. Et c'est une image qui est parlante. On y voit un homme avec son baluchon rempli de toutes les affaires de sa vie. On y voit sa voiture, on y voit son chat, son ordinateur. On y voit aussi sa femme. On y voit sa guitare. Tout, toutes les choses de sa vie sont dans ce sac. Il tient sa télé à la main et il veut aller au ciel avec tout ça. Mais manque de chance, il y a un mur avec une porte très étroite. Et ma fille regardait ce dessin et elle dit « Mais il ne va pas pouvoir passer !» Mais c'est vrai, il ne pourra pas passer. Il ne peut pas passer. Et le texte en fait, que nous allons lire et étudier ce matin est très bien illustré, je trouve, par cette image. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Je vais lire le texte dans la version seconde 21. Alors, le contexte, Jésus est en direction de Jérusalem, il passe de ville en ville et il enseigne. Et là, il vient d'enseigner, il vient de mettre en garde notamment ses disciples par rapport au levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et là, tout à coup, pendant que Jésus enseignait, donc au verset 13, du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » La première partie de mon intervention concerne les versets 13 et 14 que je vais lire. Le Seigneur donc enseigne la foule. Et un homme du milieu de la foule l'interpelle et lui dit « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Il est question d'héritage. L'homme du milieu de la foule interpelle Jésus pour une question de partage d'héritage. À cette époque, la loi encadrait, notamment la loi juive, la Torah encadrait l'héritage notamment au travers de deux textes. Le premier texte se trouve dans Deutéronome, chapitre 21, versets 15 à 17, que je vais lire. « Supposons qu'un homme qui a deux femmes aime l'une, mais pas l'autre, et qu'il ait des fils dont l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas. Quand il partagera son bien entre ses fils, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est vraiment l'aîné. Il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et il lui donnera une double portion de son bien, car ce fils est le premier-né de ses enfants, le droit d'aînesse lui appartient. Ce texte dans l'Ancien Testament cadre la notion d'héritage. Ici, il est question du droit d'aînesse. Le premier-né a droit à une double part par rapport à ses autres frères. Et dans l'hypothèse, en fait, pour schématiser, dans l'hypothèse où il y avait deux fils, ça semble être le cas de notre texte, en fait, l'héritage du père était partagé en trois parts et le premier-né en recevait deux. La Torah, enfin, la notion d'héritage ne concernait que le père et les fils. L'héritage était transmis exclusivement aux fils. Mais il y a un autre texte dans l'Ancien Testament qui prévoit le cas où il n'y aurait pas de fils, où le père n'aurait pas de fils. C'est dans le livre de Nombres, on peut lire dans Nombres 27, versets 8 à 11, et même dans Nombres 36, c'est à Dieu qui parle, à Moïse, « Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez au frère de son père. Si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent de son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. » Voici les deux textes qui encadrent la notion d'héritage dans la loi juive. L'héritage, qu'est-ce que c'est ? L'héritage, c'est un patrimoine, un bien que laisse une personne lors de son décès, lors de la fin de sa vie. Un héritage englobe donc deux notions, la notion de bien, les biens qui sont légués, et la notion de la fin de vie, le père qui s'en va. Le père de l'homme du milieu de la foule venait peut-être de partir, d'où sa requête à Jésus peut-être. Sa requête, remarquez-le, concerne l'aspect de l'héritage, enfin l'aspect des biens, l'héritage dans le sens des biens. Jésus partage notre héritage. Il aurait très bien pu interroger Jésus sur l'autre aspect, la fin de vie, son père vient de partir. En effet, le départ d'une personne est l'occasion pour les vivants de réfléchir à l'éternité. Mais ce n'est manifestement pas son état d'esprit. L'homme du milieu de la foule, ce qui l'intéresse, c'est le partage des biens que son père a laissés. Le texte ne nous renseigne pas beaucoup sur la nature exacte du problème avec son frère. Est-ce qu'il n'a pas reçu son héritage ou est-ce qu'il ne devait en recevoir plus ? On ne sait pas. Cet homme interpelle Jésus et l'appelle maître, en grec didaskalos, c'est-à-dire professeur, celui qui enseigne les choses de Dieu. Il semble vouloir utiliser l'autorité de Jésus en tant que maître, en tant que professeur, pour son propre avantage matériel. Et Jésus refuse catégoriquement. Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? Lui répondit-il. En d'autres termes, ce n'est pas à moi de vous départager. Personne ne m'a établi pour cela. Notons que Jésus répond à l'homme par une question rhétorique, une question oratoire, une fausse question, une fausse interrogation. En fait, la question, il ne donne pas la question, n'a pas besoin de connaître la réponse. La réponse était évidente. Notons également que dans la suite du texte, dans la parabole, Dieu va également poser une question oratoire à l'homme riche. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? On y reviendra tout à l'heure. À la question oratoire de Jésus, on a quand même envie de répondre, mais qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? Personne. En tout cas, pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a établi Jésus. Ce n'est pas à Jésus d'être leur juge en ce qui concerne le partage de leur héritage. Personne ne l'a établi pour cela, en tout cas pas Dieu. L'homme de la foule fait donc une erreur sur Jésus. Il se trompe sur le rôle de Jésus. Il y a une erreur sur la personne. Jésus n'a pas été établi pour cela. Comme nous l'avons vu ce matin et comme nous le savons également dans la Bible nous révèle que Jésus est venu pour une mission en particulier. Et sa mission a une portée spirituelle et éternelle. Acte 17, versets 30 à 31, nous révèle un aspect de cette mission. Sans tenir compte du temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le jugement pour lequel Dieu a établi Jésus n'a pas une portée matérielle ou temporelle, comme celui de départager deux héritiers, mais son jugement a une portée spirituelle et éternelle. L'homme fait une grosse erreur sur la personne de Jésus, en tout cas sur le rôle de Jésus. Et pour illustrer cela, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Et le contexte est le suivant. En 2006, le Premier ministre français, Dominique de Villepin, voulait inciter à l'embauche des jeunes, parce que le taux de chômage était très élevé chez les moins de 26 ans. Et il proposa une loi sous la forme du contrat première embauche, le CPE, je ne sais pas si certains s'en souviennent, et c'était un type de contrat à durée indéterminée à destination des moins de 26 ans. Ce contrat était assorti d'une période de consolidation de 2 ans, pendant laquelle l'employeur pouvait rompre le contrat de travail sans donner de motif. Ce texte a suscité une vive opposition parmi un nombre très important d'étudiants et de lycéens. On estimait que le contrat aurait facilité les licenciements abusifs et c'était un contrat précaire. Il y a eu un bras de fer entre les étudiants et Dominique de Villepin pendant 3 mois. Plus de 3 millions de personnes sont descendues dans la rue. 69 universités françaises sur 84 étaient bloquées, étaient en grève. Cette opposition a finalement fait reculer le pouvoir exécutif. Et moi, pendant cette période, j'étais à l'IUT, j'étais en deuxième année de DUT. Et j'étais engagé dans un syndicat étudiant, l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Et je menais la mobilisation à l'IUT parce qu'il me semblait à moi aussi que ce contrat était abusif et précaire. Et je devais notamment passer de classe en classe pour encourager les autres étudiants de mon IUT à se mobiliser. Et j'arrive devant une classe, la porte est ouverte, je regarde dans la classe, je regarde. Le professeur n'était pas à son bureau. Donc je passe la porte, je passe la tête, je regarde. Les étudiants travaillaient, 2 ou 3 étaient debout, il n'y avait pas de professeur. Je décide donc de rentrer dans la classe et je commence à faire mon petit speech, à mobiliser les personnes. Et là, l'un des étudiants me dit « stop, stop ». En fait, c'était le professeur. C'était vraiment la honte pour moi. Il me dit « tu vas ressortir, mon petit gars, tu vas toquer à la porte, tu vas demander la permission de parler et je t'autoriserai ». J'avais honte et j'ai fait ce qu'il m'a demandé et j'ai pu donc faire mon petit speech. En fait, voilà, tout ça pour vous dire que dans cet exemple, je me suis trompée. J'ai confondu le professeur avec un étudiant. C'est pas le même rôle, un étudiant et un professeur n'ont pas le même rôle. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce texte. Ce frère, cet homme, il se trompe sur le rôle de Jésus. Il fait erreur sur la personne de Jésus. Jésus n'est pas venu pour le départager. C'est son héritage. Jésus est venu pour une mission tout autre, à une portée éternelle. Nous aussi, quelquefois, nous faisons des erreurs, n'est-ce pas ? Nous nous trompons sur les personnes. Et nous faisons également cette erreur concernant Jésus, concernant le Seigneur. Nous oublions quel est fondamentalement son rôle, sa mission. Et nous lui formulons parfois, comme cet homme, des requêtes matérialistes, bien éloignées des considérations éternelles. Apprenons à situer nos prières, nos requêtes, dans une perspective de l'éternité. C'est ce que nous encourage à faire Don Carson dans le livre « La prière renouvelée » que l'on a déjà lu. Prions avec la parole afin de prier dans la perspective de l'éternité. Néanmoins, le Seigneur nous promet de prendre soin de nous et on le voit dans la suite de ce texte, dans les versets à partir du verset 22, le Seigneur dit « Il sait qu'on a besoin de certaines choses matérielles, mais il nous dit de ne pas nous préoccuper de ces choses-là. » Voilà. On va passer à la deuxième partie, et cette deuxième partie concerne le verset 15. Jésus s'adresse à la foule. Donc, il vient de dire à l'homme, qui m'a établi pour faire vos partages ? Et maintenant, il se tourne vers la foule et il donne cet enseignement ô combien important. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Jésus confirme notre impression sur l'homme de la foule. Cet homme est avare. Sa requête n'était pas motivée par un désir désintéressé de justice. Il est avare, il est cupide. C'est dans cet état d'esprit qu'il réclamait l'intervention de Jésus. La soif de posséder, c'est l'avarice. Dans d'autres versions, on a l'avarice. En grec, pléonexia. C'est le désir ardent, avide d'avoir plus. C'est la cupidité, c'est l'avarice. Et on a des personnages de fiction qui illustrent très bien cette notion d'avarice. Le premier, c'est Picsou. Vous connaissez tous Picsou. Picsou, c'est un avare. C'est un canard qui est avare. C'est l'oncle de Donald et il amasse des pièces d'or, des pièces dans son coffre-fort. Et ici, la jauge de profondeur nous indique qu'il a à peu près 27 mètres de profondeur en pièces d'or. Picsou, c'est l'image de l'avarice. Il y a une autre image, un autre personnage de fiction que vous connaissez peut-être, c'est Don Salluste, qui est ministre du roi d'Espagne. C'était un être fourbe. Ce personnage a été interprété par Louis de Funès dans La folie des grandeurs. Il collecte les impôts pour lui-même et pour le roi. Il y a cette célèbre scène où il dit « ça, c'est pour le roi, et ça, bah, c'est pour moi ». Il le garde de côté, peut-être que vous connaissez. Voilà deux personnages qui illustrent cette notion d'avarice, de cupidité. Jésus, ici, fait une grosse mise en garde contre ce mot, l'avarice, l'un des mots les plus graves du cœur humain. Une mise en garde qui est reprise avec abondance dans les Écritures. Éphésiens 5, verset 3, nous dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Et Jésus lui-même nous le dit dans l'évangile de Marc, il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, du cœur de l'homme, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. L'homme intérieur, l'homme extérieur, Daniel l'a mentionné dans sa prière ce matin. C'est du cœur de l'homme que provient l'avarice, la soif de posséder. Et Jésus insiste sur sa mise en garde. Gardez-vous avec soin. C'est une question importante qui requiert une attention toute particulière. Gardez-vous avec soin. Dans la suite du verset, le Seigneur explique cette mise en garde en mettant en opposition la notion de bien et la notion de vie. C'est le point central de notre texte. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Dans d'autres versions, dans la version Osterwald, on a « Car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. » Il n'a pas la vie par ses biens. Je préfère ici cette version. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle met bien en évidence ce que le Seigneur veut mettre en avant. Les biens, ce sont ce que nous possédons. Ce sont nos richesses, notre propriété, toutes choses d'utilité pratique et de valeur financière, ce qui répond à un besoin matériel et qui peut être monnayé. C'est ça les biens. Mais la vie dans la Bible, en tout cas en grec, il y a trois mots qui peuvent désigner la notion de vie. Le premier, c'est la vie zoé, qui désigne la vie morale et spirituelle, et s'applique spécialement à l'idée de la vie éternelle, la vie réelle, la vie véritable, vouée à Dieu, celle qui est bénie, même dans ce monde-ci, pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ et qui aboutira après la résurrection à la vie éternelle. C'est la vie zoé. Il y a également la vie psouké, c'est le souffle de vie. Ce mot a le double sens de vie ou de âme. Et ce mot, on va le retrouver dans la suite du texte. On le retrouve dans la parabole, quand l'homme dit « Je dirai à mon âme » ou quand Dieu lui dit « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée ». C'est ce même mot, on pourrait le remplacer par « vie ». Il est question de vie. C'est la vie de l'homme dans le sens temporel. Et ce même mot, on le retrouve un peu plus loin dans le texte, dans le chapitre 22, quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Il est question de la vie psouké. Mais, et le troisième terme qui définit aussi la vie en grec, c'est bios. Mais dans notre texte, on ne l'a pas. Mais bios est souvent utilisé pour ce qui concerne l'existence. Mais dans notre texte, on a la vie psouké et la vie zoé. Et ici, dans ce verset, le terme que le Seigneur utilise, c'est la vie zoé. C'est la vie, la vraie, la réelle, la véritable, celle qui est vouée à Dieu, celle qui est bénie. C'est la vie éternelle. Jésus met en opposition les biens matériels et la vie spirituelle et éternelle. L'homme n'a pas la vie par ses biens. On n'a pas la vie par nos biens. Comme nous l'avons vu dans la première partie, l'action de Jésus n'a pas une portée matérielle et temporelle, mais elle a une portée spirituelle et éternelle. Son enseignement ici le confirme. Il met en opposition ce qui est d'ordre matériel, les biens, et ce qui est d'ordre spirituel, la vie zoé, la vie éternelle. L'homme n'a pas la vie par ses biens. Cette mise en garde du Seigneur s'adresse à nous aujourd'hui tout particulièrement. Nous vivons dans une société qui est prospère. Nous nous faisons constamment bombarder par des messages publicitaires qui poussent à la surconsommation, à l'avarice. On met en avant le paraître, l'extérieur, et non ce qui est dans le cœur, comme cela a été dit ce matin déjà. Si vous avez remarqué, le titre que j'ai choisi, je l'ai emprunté à un slogan de l'une des plus grandes enseignes de grande distribution en France. Savez-vous quelle enseigne ? Aucune idée ? C'est Auchan. Auchan, la vie, la vraie. Ça, c'était de 2000 à 2006, c'était le slogan de Auchan. Maintenant, c'est vivons mieux, vivons moins cher. La vie, la vraie, Auchan. J'ai une image. Dans cette image, Auchan, il nous est dit, si vous l'avez fini avant même d'arriver chez vous, c'est que c'était une paysanne, une vraie, la vie, la vraie, Auchan. Méfions-nous, la vraie vie, ce n'est pas ça. La vraie vie, la vraie, nous ne l'avons pas par des biens de consommation, des biens périssables, des biens semi-durables ou des biens durables. Non, la vie, la vraie, nous ne l'avons pas par nos biens. Par ces tapages publicitaires, on veut nous faire croire que nous avons besoin de tel ou de tel objet. Cela peut faire naître en nous un désir avide d'avoir plus, toujours plus. Et même aujourd'hui, ce n'est pas toujours le désir d'avoir toujours plus, mais d'avoir le dernier cri, la dernière itération de tel objet, de telle chose. Lorsque Jésus dit « Méfiez-vous de toute soif de posséder », toute, dans la version sommaire, il est dit « de la soif de posséder sous toutes ses formes ». Elle a beaucoup de formes. Méfions-nous de la soif de posséder sous toutes ses formes, car c'est une idolâtrie. Elle peut engendrer une idolâtrie. Ce qui est remis en cause, ce n'est pas la possession ou la consommation. Ce qui pose problème, c'est lorsque ces choses prennent la place de Dieu, dans notre cœur ou dans notre vie. Bien sûr, ces choses peuvent nous être utiles, mais il ne faut pas qu'elles prennent la place de Dieu, parce que la vie, la vraie, on ne l'a pas dans ces choses-là, on l'a dans le Seigneur. Il nous faut donc étudier soigneusement la place que prennent les choses que l'on désire ou que l'on possède dans notre cœur. Ce doit être une lutte de tous les instants qui requiert notre absolue vigilance. Par cet enseignement, le Seigneur remet bien les choses à leur place. Et pour illustrer son enseignement, il va raconter une parabole. Donc je passe à la partie 3, la parabole. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Que pensez-vous de cet homme ? Que pensons-nous de cet homme ? Peut-on lui reprocher de s'occuper de sa récolte ? Cette parabole dépeint un homme qui gère ses biens de façon prudente et efficace, avec la sagesse d'un homme d'affaires expérimenté. Il réorganise son système de stockage afin de mettre à l'abri non seulement son blé, mais également tous ses autres biens. Ne pensez-vous pas qu'il agit en homme sensé ? N'aurions-nous pas fait pareil à sa place ? Quel est le problème alors ? Malgré une excellente gestion de ses affaires, l'attitude de cet homme révèle un problème fondamental. Il est, d'une part, centré sur lui-même. Regardez dans le texte. Notez la prédominance du « je » et du « moi » dans le texte. En trois courts versets, cet homme utilise le pronom personnel « je » 7 fois et l'adjectif possessif « mon » ou « mes » 6 fois. Que vais-je faire ? Je n'ai pas de place. Voici ce que je vais faire. J'abattrai, je construirai, j'y amasserai, je dirai à mon âme. Je n'ai pas de place pour ma récolte, mes greniers, ma récolte. Voilà, il est vraiment centré sur lui-même. Cet homme est centré sur lui-même. Tout gravite autour de lui. Cette façon de s'exprimer trahit une pensée pour le moins égocentrique. Cet homme est égocentrique. Il est trop absorbé par ses intérêts personnels. Il n'a ni estime ni reconnaissance envers la providence de Dieu. Jamais n'a-t-il songé à utiliser son surplus pour le bien des hommes. Certes, il n'y a aucun mal à se réjouir de ses biens ou de sa richesse. Son erreur, c'est de tout rapporter à lui-même. Toujours moi, moi. Et c'est le péché. Pour illustrer cela, je vais vous parler d'un homme, un homme scientifique qui, au milieu des années du XVIe siècle, a apporté une révolution dans la science. C'est Nicolas Copernic. Avant Nicolas Copernic, on pensait que la Terre était au centre de l'univers et que tout gravitait autour de la Terre. Et Nicolas Copernic vient dire le contraire. Il dit non, ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, c'est le Soleil. On passe d'un modèle géocentrique, la Terre, à un modèle héliocentrique. C'est le Soleil qui est au centre de l'univers. C'est une avancée de la science qui nous interpelle. Qui est au centre de notre vie ? Est-ce nous-mêmes ou est-ce Dieu ? Faisons une révolution dans notre vie. Mettons Dieu à la place qui lui revient. L'autre problème fondamental dans la vie de cet homme, c'est que cet homme pensait avoir sécurisé son avenir par l'accumulation de trésors matériels. Si le matériel ou la matière était la seule réalité de notre univers, alors il serait difficile de critiquer cet homme. Mais sa conception de la réalité est faussée. Les richesses matérielles n'existeront pas pour toujours. On peut lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, « Ainsi, nous regardons non à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Sa vision du monde exclut complètement la perspective de l'éternité. L'homme riche est un insensé, car il a tracé son avenir en ne se souciant que de ce qui est pour le corps et pour ce temps-ci. Il a vécu comme si l'éternité n'existait pas. Il ne s'est pas préoccupé des choses visibles. Il ne s'est préoccupé que des choses visibles et passagères, non pas de celles qui sont éternelles. Dieu lui annonce la terrible nouvelle. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Verset 20. Et ici, précisément, la folie de cet homme, elle est décrite par un verset que l'on trouve lorsque Jésus pose cette question dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme ?» Donc, Dieu lui annonce la triste nouvelle. « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Il y a ici un contraste fort entre « J'ai amassé des biens en réserve pour de nombreuses années » et les quelques minutes qui lui restent à vivre. Cet homme est avare, il est cupide. Son avarice le fait passer à côté du but essentiel de la vie. Il a manqué le but de la vie de l'homme. Il a péché, manqué le but. Or, on ne peut pas ignorer cette vision éternelle de la vie sans en subir de graves conséquences. Hébreux 9, verset 27 nous dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et c'est le cas de ce geôlier dont Jean nous a fait part tout à l'heure. Il s'est rendu compte que le jugement de Dieu était plus important que celui des hommes. Et il demande « Que faut-il faire pour être sauvé ?» Puis Dieu pose cette question à l'homme. « Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Poser la question, c'est y répondre. C'est pour personne. En tout cas, pas pour lui. Et ni pour Dieu, en tout cas. Les biens matériels, en effet, ne peuvent être emportés dans l'au-delà. En effet, nous dit l'épître de Timothée, 1 Timothée, chapitre 6, verset 7, « En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde et nous ne pouvons rien en emporter. » Riche pour qui ? Jésus conclut cette parabole avec une application. Verset 21. « Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si nous voulons être riches, soyons-le de la bonne manière. Soyons riches pour Dieu. » Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est être riche pour Dieu ? Comment devient-on riche pour Dieu ? On a vu dans la première partie que l'action de Jésus n'a pas une portée matérielle et temporelle, mais elle a une portée spirituelle et éternelle. Dans son enseignement et dans la parabole, le Seigneur met en opposition ce qui est d'ordre matériel et la vie, la vraie, qui est d'ordre spirituel et éternel. L'homme n'a pas la vie par ses biens. Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voilà ce que c'est d'être riche pour Dieu. Avoir la vie, la vraie vie, et l'avoir en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà ce que c'est que d'être riche pour Dieu. Avoir la vie, la vraie vie, et l'avoir en abondance. L'homme n'a pas la vie par ses biens, il a la vie par Jésus-Christ. Il a donné sa vie, on l'a encore partagé à l'occasion de la Sainte Cène. Le Seigneur s'est donné pour que nous ayons la vie. Et c'est ça, être riche pour Dieu. Accepter cela. Cet homme dont Jean nous a parlé, ce geôlier, il se jette aux pieds de Paul, aux pieds de Pierre, c'est ça. Et lui dit, de Paul, que faut-il faire pour être sauvé ? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Aujourd'hui, si tu es ici parmi nous et que tu n'as pas encore saisi cette nouvelle vie qui t'est offerte, saisis-la, attrape-la, parce que c'est la vraie vie. Elle t'est offerte, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. C'est la vie éternelle, la vie véritable. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tes biens ne te sauveront pas, on n'a pas la vie par nos biens. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis, nous dit 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Ce texte, cette parabole, nous invite à mettre le Seigneur au centre de notre vie. On peut peut-être passer, voilà. À mettre le Seigneur au centre de notre vie, à inscrire notre vie dans une perspective de l'éternité. Faisons graviter notre vie autour de lui. Passons d'une vie égocentrique à une vie christocentrique. Réexaminons notre système de vie, et le plus souvent possible à la lumière de la parole de Dieu. C'est en lisant de tels textes que l'on se rend compte des difficultés, des problèmes, des choses qui peuvent nous éloigner loin de Dieu, qui peuvent prendre la place de Dieu dans notre cœur. Essayons de calquer au mieux nos priorités sur celles du Seigneur, notamment dans l'annonce de la bonne nouvelle, de sa grâce, par exemple. Progressons dans la sainteté, dans la sanctification, afin de toujours, toujours mieux ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, je veux bénir ton nom, te louer et t'adorer, parce que c'est en toi que nous avons la vie. Tu t'es donné, tu t'es sacrifié pour que nous soyons enrichis, pour que nous ayons la vie, la vraie vie en toi. Et je veux bénir ton nom pour cela. Merci pour cette mise en garde, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous libère, elle nous dit la vérité, elle nous révèle les réalités de la condition humaine et elle nous en donne également la solution, Seigneur. Et cette solution, c'est toi. Amen.